Semaine Sainte 2018. Semaine Sainte 2018, le MAG, Emmanuel Pella.
C'est probablement le jour le plus long de l'année pour les chrétiens. Un long, très long samedi, la plupart du temps vécu dans le silence, un jour où chacun peut prendre conscience de la mort, de sa mort. Quelle est l'espérance de l'Église à propos de la mort? Que dit-elle? Qu'est-ce que la communauté des béatitudes a à dire sur ce sujet? Peut-être de nous réveiller, on appelle cela la tension eschatologique. Explication. Nous sommes aujourd'hui avec le Père Nilsson, qui est donc prêtre de la communauté des béatitudes. Bonjour.
Bonjour, Emmanuel.
Et le frère Andreas, qui est un des religieux de cette même communauté. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vaste sujet en ce samedi, peut-être quelques mots, même si Étienne Dallaire l'a fait plusieurs fois à cette antenne, pour ceux qui nous rejoindraient ou qui auraient suivi la fin de cet office du matin, sur le samedi, Père Nilsson, c'est un long jour de silence, traditionnellement vécu avec la Vierge. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire comme mot d'introduction sur cette journée?
Effectivement, donc avec la Vierge Marie, nous entrons dans cette grande espérance de la résurrection du Seigneur, avec la Vierge Marie qui savait que tout ce que le Seigneur avait promis s'accomplirait. Voilà, donc alors avec elle, nous sommes dans cette attente, dans la certitude de la vie nouvelle que Jésus nous propose.
On s'est dit aujourd'hui qu'on allait parler de la mort. Voilà, l'Église accompagne un mourant, donc fait mémoire de la mort de Jésus. Aujourd'hui, dans l'office de ce matin, même Jésus descendait aux enfers. Cette mort, que l'on soit chrétien ou pas, probablement que tout le monde un jour se pose la question et se demande ce qui va se passer. Donc c'est peut-être l'occasion de redire quelle est la foi de l'Église sur ce sujet. Alors je me tourne vers nous, frère Andreas. Que dit l'Église sur la mort? Voilà, le jour où moi je vais mourir, que va-t-il se passer? Sait-on à peu près ce qui va se passer?
Oui, c'est ça, on sait quelque chose, bien sûr. Et pour moi, tout d'abord, c'est très important que c'est une très grande espérance, parce que la foi de l'Église dit que nous allons venir devant Jésus. Et puis, c'est Dieu qui va donc nous juger selon le bon qu'on a fait et le mal. Et on peut toujours espérer à la miséricorde du Seigneur. Et concrètement, la mort va donc être la séparation de l'âme de son corps, mais qui ensuite attend la résurrection de la chair, comme nous le confessons chaque fois dans le credo, chaque dimanche.
Donc quand vous dites que Dieu va nous juger, ça veut dire quoi en fait, que Dieu va nous juger? On va faire face donc à Jésus et il va faire le compte en fait de notre vie, c'est ça?
Mais comme je dis, je crois que c'est une fausse image de Dieu si on pense qu'il est là avec un livre où il a écrit toutes les mauvaises choses et il est hyper content de nous punir. Mais c'est le contraire, c'est le Dieu qui nous cherche. Et je crois particulièrement aujourd'hui, on a pu aussi voir cela, comment il descend dans l'enfer pour chercher Adam, qui était le premier perdu. Et moi, je crois pour nous aussi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Dieu veut notre salut. Il va tout faire pour que nous soyons sauvés. Mais la chose qui est importante, c'est que moi, je suis libre. Parce que sinon, il n'y a pas d'amour. Si je n'ai pas de liberté, il n'y a pas d'amour. Et alors, c'est dans cette liberté que Dieu permet à chacun que finalement, je peux me juger moi-même d'une certaine manière si je ne rentre pas dans cette miséricorde du Seigneur, si je veux ne pas me laisser sauver d'une certaine manière.
Père Nilsson, aujourd'hui, de plus en plus de gens font ce qu'on appelle des expériences de mort imminente. Vous savez, ces tunnels de lumière dans lesquels les gens entrent. Ce sont des gens qui ne sont... Il n'y a pas de mort biologique, la plupart du temps, il y a une mort cérébrale. Mm-hmm. Et puis, de plus en plus de gens reviennent de cette mort cérébrale en décrivant une expérience semblable. Est-ce que l'Église a... Que dit l'Église de cela? Est-ce que quelque part, ça fait partie du package de la foi chrétienne? On sort de son corps comme ça, on rentre dans un tunnel de lumière, mais au bout du tunnel, on rencontre le Christ?
Je ne sais pas s'il y a quelque chose... concrètement dit de la part de l'Église. Il y a un frère ici, dans notre maison, qui effectivement donne son témoignage de temps en temps quand on lui demande de cette expérience des morts imminentes, effectivement. Il raconte avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'authenticité. Après, parole de l'Église pour crédibiliser cela, Donc c'est un petit peu difficile, c'est tellement des expériences personnelles qu'on... Il n'y a pas grand-chose à dire de la part de l'Église, à mon avis.
Alors, ça c'est, si j'ai bien compris, j'essaie de résumer, on fera face au Christ, selon vous, qui sera un juge plein de miséricorde, et en fait, quelque part, c'est son amour qui fera un peu le tri dans notre cœur et dans notre vie. C'est ça, frère Andréa, si j'ai à peu près bien compris ?
Oui, je crois qu'on pourrait le dire comme ça, oui.
Alors, c'est la première étape, mais certains, alors il y a beaucoup de films sur ce sujet, se demandent si un jour il va y avoir une fin des temps. J'ai cru comprendre que la foi de l'Église, c'était de dire que, en fait, le monde terrestre avait une fin et qu'un jour, Dieu, le Christ, reviendrait dans sa gloire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Que dit l'Église de cette fin des temps, frère Andréas ?
Oui, j'ai déjà dit un peu. C'est déjà tout d'abord personnellement. Ça signifie que une fin que je serai mort. Et si le Christ n'est pas encore revenu dans sa gloire, comme nous le croyons aussi et comme nous l'attendons. Mon âme attend le corps pour sa résurrection. Et donc, à la fin du temps, ça va se passer selon la foi de l'Église. Et comme nous le confessons, c'est que tous les corps ressusciteront et vont donc rejoindre l'âme qui est en attente de son corps. C'est parfois, je crois, beaucoup dans notre société aujourd'hui, on a une fausse idée du corps aussi, qui est parfois très négatif, qui est un peu comme une prison dans laquelle l'âme est enfermée. Et l'Église dit exactement le contraire. L'Église dit que cette matière-là aussi, qui est le corps, veut être sauvée aussi et est appelée donc aussi à la vie éternelle.
Alors c'est pareil, comment ça va se passer ? Est-ce qu'il y a des saints ou des mystiques qui ont eu des révélations ? C'est-à-dire un jour, un grand signe apparaîtra dans le ciel et puis... Ça sera la fin du monde et
je crois que, je ne sais pas, peut-être il a eu aussi des révélations privées sur ce sujet-là, mais je crois qu'on doit se tenir tout simplement à l'Apocalypse, au dernier livre de la Bible. Et c'est un langage très mythologique qui est là-dedans, ou plutôt mystique, excusez-moi. Ça veut dire donc, on ne sait pas exactement, ce n'est pas la mathématique ou quelque chose qui est très clair, mais c'est mystique, ça veut dire donc... C'est quelque chose que nous essayons d'exprimer. Mais pour moi, la plus importante dans ce livre est la dernière phrase presque. Ça veut dire « Viens Seigneur, Maranatha ». Ça veut dire donc, on peut commencer à se faire beaucoup d'idées sur ces fins derniers. Mais l'Église elle-même dit qu'on ne sait pas énormément de choses très clairement là-dessus.
On sait qu'il y a une fin en tout cas, c'est ça ?
Ça c'est clair, oui, ça c'est clair.
Et on sait qu'à la fin, enfin en tout cas c'est la foi de l'Église, à la fin, le Christ reviendra dans sa gloire, c'est ça ?
Oui, le Christ va revenir dans sa gloire, tout à fait. Et puis c'est ça, mais comment est-ce que ça va se passer ? On n'a aucune idée. J'ai entendu une fois un prêtre, ce qui m'a beaucoup plu comme idée, il a dit peut-être que ça va être comme à Noël, très caché. Aussi comme ça ne va pas être... Parce que parfois, nous, on pense tout de suite à quelque chose d'hyper splendide et tout ça. Mais on ne sait jamais avec Dieu. Dieu ne fonctionne souvent différemment de nous. On a des idées et puis Dieu, il fait très différemment. Je crois que chacun pourrait témoigner aussi de sa vie, comment il a déjà pu expérimenter cela. Et donc, même pour la fin de temps, je crois aussi que c'est très important de ne pas se faire trop d'idées, mais de tout simplement se dire « Je veux vivre de cette espérance ». Parce que je crois ce que l'Église me dit, c'est-à-dire que nous sommes dans cette attente du Christ glorieux qui va revenir.
Alors, il y a il y a une phrase qu'on trouve qui est la foi de l'Église, qu'on trouve dans le catéchisme de l'Église catholique, c'est les cieux nouveaux et la terre nouvelle. Alors j'ai envie de dire c'est presque l'étape d'après, probablement qu'on ne peut pas dire de choses très précises, mais qu'est-ce que c'est, Père Nilsson, ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle ? C'est-à-dire qu'à la fin des temps, Dieu va recréer un monde dans lequel on vivra en amitié avec lui pour toujours ?
En tout cas, la nouveauté du royaume, donc de cet avenir, a déjà commencé, donc avec la venue de Jésus, la première venue de Jésus dans la pauvreté. Donc il a instauré donc, dans le cœur de l'humanité ces germes de bonté, de communion, etc. Donc que l'Église, elle aussi, elle essayait de vivre et de répandre. Donc c'est déjà une réalité nouvelle. Donc un monde réconcilié, un monde où les opposés peuvent se parler. Donc il y a une véritable fraternité entre différents peuples, différentes cultures, différentes races. Donc c'est déjà cette réalité du royaume qui est présente. Après, les cieux nouveaux et la terre nouvelle, encore là, effectivement, donc ce sont paroles des épîtres, donc du Nouveau Testament, mais il n'y a aucune allusion à comment cela se présentera. Donc c'est une réalité nouvelle, on a plénitude de ce que l'homme cherchait, de ce que l'homme cherche, et il y aura ces plein accomplissement, cette pleine réalisation, donc ces désirs de paix, de communion, d'unité, d'entente va être pleinement réalisé.
On ne sait pas si on pourrait aller se promener en montagne avec Dieu ou avec le grand-père qui est mort ou aller à la pêche.
Peut-être que ça va être une réalité transhistorique, mais en tout cas, il y aura cette réalité nouvelle qui aujourd'hui nous dépasse, puisqu'il n'y a pas eu de... Dans les Écritures, on ne parle pas de cette transformation, comment cela se passera. Mais donc, Jésus, lui aussi, il avait dit donc, qu'il viendra dans sa gloire, il viendrait... Et donc, c'est la foi dans la parole de Jésus et la foi de l'Église qui s'appuie sur lui.
À vous entendre, voilà, on connaît l'intention, mais ça va être difficile de faire un film à partir de... Ça serait difficile de faire un film à partir de ce qui est dit dans les Écritures.
Oui, tout, après, bon...
Ça reste mystérieux.
Parfois, en tout cas, parfois dans les Évangiles, Jésus parle des tremblements de terre, des choses incroyables qui arriveront à la fin des temps. Mais bon, c'est aussi une manière donc qu'il utilisait propre à son langage, à sa culture, donc de dire l'importance de quelques événements qui devraient à venir. Donc ça, c'est il disait quelque chose quand même. Mais alors, il y a des films qui ont fait des catastrophes pour dire que c'est la fin du monde, une météore qui va tomber sous la terre, ou je sais pas, et que ce sera la fin de ce monde. Mais enfin. Ça reste dans les mystères de Dieu. On sait que cela arrivera, donc c'est une réalité nouvelle. Mais comment ? Donc on ne sait pas. Comme la première venue de Jésus. Jésus il est venu, ça a été annoncé, mais on ne savait pas comment il viendrait. Donc il a pris le choix de venir comme un petit enfant à Noël.
Il y a dans le livre de votre fondateur Ephraim intitulé « Les pluies de l'arrière-saison », on l'a déjà cité à plusieurs reprises parce que ça permet un peu de se plonger dans les débuts de la communauté pour ceux qui n'en sont pas du tout familiers, où il me semble, en tout cas c'est dans une interview, ou plutôt pardon, dans une interview à Frédéric Lenoir, voilà, bien connu, à frère Ephraim que vous m'avez fait suivre. À un moment, Frédéric Lenoir lui pose cette question, donc journaliste, écrivain, à succès, lui pose cette question, lui dit qu'est-ce que la communauté a apporté de nouveau. Alors il dit probablement pas grand-chose, peut-être dans la forme ou des petites nouveautés, mais dans le fond. Ou alors s'il y a une chose, c'est retrouver justement cette tension, cette attente du retour du Christ. Est-ce que vous pouvez éclairer cela ? Qu'est-ce que frère Ephraim voulait dire par là ?
Enfin, effectivement, je pense que ce que fait partie aujourd'hui de notre charisme, donc cet aspect, cette attention eschatologique, donc ces désirs de la venue en gloire de Jésus, fait partie de son expérience spirituelle quand il s'est converti, disons, de façon plus profonde. Il a fait cette expérience de la réalité de ce monde déjà présent sous la terre, à travers la présence eucharistique, Jésus dans l'eucharistique. Donc il a déjà eu cette expérience donc de la réalité du monde nouveau. Mais aussi, je dirais, il a fait l'expérience aussi de la beauté de la liturgie, particulièrement donc ici en France, avec peut-être Cheptogne, mais qui cherchait un petit peu, après le Concile, à faire en sorte que la liturgie exprime quelque chose de la beauté du ciel. Et aussi, son expérience l'a amené à Jérusalem, où il a davantage aussi fait cette expérience de la beauté de la liturgie orientale. Donc, alors, lui nous a transmis, en tout cas comme fondateur, cette certitude, donc cette certitude que voilà, donc la réalité du monde nouveau a déjà commencé et que c'est une réalité présente. On dit souvent dans la liturgie, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, ou dans la messe de tous les jours, on dit, viens Seigneur Jésus après la consécration des saintes espèces. Mais voilà, donc ce n'est pas que des paroles pour lui. Ce n'est pas devenu que des paroles, mais une réalité profonde, donc une expérience, une certitude. Et donc ça, c'est... Il nous a transmis, je dirais, donc, ce que l'Église désire dans sa liturgie, dans sa prière, « Viens Seigneur Jésus, Maranatha ». Il nous a transmis ce désir de le vivre dans le quotidien, dans notre liturgie, dans notre prière, dans notre communion fraternelle. C'est cette attention eschatologique qui justifie beaucoup de choses dans la communauté.
J'aimerais, avant qu'on fasse une pause, que vous nous reparliez un petit peu. On en a parlé jeudi dans le magazine de ce Tridium Pascal, qui était donc sur le thème « La communauté des béatitudes et le mystère d'Israël ». Vous nous reparliez un peu de cette union que vous essayez de vivre au monde, enfin aux Juifs, au judaïsme. Il y a là-dedans aussi quelque part quelque chose d'eschatologique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce mag, en quoi cela rejoint la thématique du jour ?
En tout cas, il y a un lien donc de l'eschatologie avec cette réalité du judaïsme, c'est-à-dire chez saint Paul aux Romains, au chapitre 11, il a dit justement qu'à la fin des temps, donc le peuple d'Israël donc va être intégré dans cette plénitude donc du corps du Christ. Donc alors c'est une promesse que saint Paul fait, donc en disant que ces temps maintenant, c'est le temps des païens qui doivent recevoir cette bonne nouvelle de Jésus, et quand toute l'humanité intégrera donc ces corps du Christ. Donc
ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin, juste avant le retour du Christ, les Juifs, en tout cas, reconnaîtront Jésus comme...
Ce sont des paroles de saint Paul, effectivement, qui disent qu'à la fin des temps, donc ils vont réaliser pleinement leur vocation, et ils vont parvenir à la connaissance du Messie, qui pour nous donc est déjà venu, que c'est le Christ. Et donc leur attente de la venue du Messie s'accomplira avec l'attente qui sera achevée, donc de la venue en gloire du Seigneur. Donc leur attente correspond aussi à notre attente.
Et donc en quoi
là, ce sera la fin des temps aussi. Donc
et en quoi le fait d'être attentif, de vivre en amitié avec les Juifs, ou de vivre en étant attentif à ce que les Juifs vivent, ça peut hâter ce jour-là.
Oui, en tout cas pour nous, ça motive notre prière, pour que en fait effectivement donc le Seigneur se manifeste aussi. Jésus se manifeste comme le Messie qu'ils attendent, et qui sera ainsi l'accomplissement des temps pour tous, pour toute l'humanité.
On va faire une pause et on vous retrouve peut-être pour aider à faire nos auditeurs à faire atterrir cela dans leur vie, comme on a essayé de le faire à l'occasion de chacun des mags de cette semaine. Ce mag en ce samedi donc sur le thème la communauté des béatitudes et la fin des temps ou à la faveur j'allais dire de la mémoire que l'on fait de la mort du Christ, l'on s'interroge sur la mort, sur la foi de l'Église. Voilà que dit l'Église à propos de la mort et à propos de la fin des temps, en prenant prétexte aussi du fait que la communauté des béatitudes essaye d'être attentive à cette réalité. On appelle ça, dans le jargon, vivre la tension eschatologique. Voilà, enfin attendre en tout cas le retour de Dieu. Je citerai juste une phrase en introduction. Qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. Dieu nous prépare une nouvelle demeure et une nouvelle terre où régnera la justice et dont la béatitude comblera et dépassera tous les désirs de paix qui montent au cœur de l'homme. Père Nilsson, que dire aux auditeurs qui trouveraient ça très beau, mais qui, une fois le poste éteint, ne vivant pas au cœur de la communauté, auraient du mal à entrer dans cette attente ou dans cette tension? Quel conseil pratique vous leur donneriez?
Enfin, effectivement, donc cette attention...
Hormis d'entrer dans la communauté des béatitudes. Mais
c'est... en tout cas, cette tension eschatologique n'est pas un monopole de la communauté, c'est toute l'Église qui la vit. Et effectivement, donc, il y en a certains, beaucoup, qui ne vivent pas en communauté, mais je pense que la prière de l'Église nous aide déjà à nous introduire dans cette réalité-là. Tout simplement, le Notre Père, quand on le médite, que ton règne vienne, c'est déjà ses désirs, c'est faire retentir dans son propre cœur ses désirs de la venue du Seigneur, donc de cette plénitude de la béatitude éternelle. C'est quand on va à l'Eucharistie, le dimanche, en tout cas, on dit le credo. Et donc, il viendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Donc ça, c'est des paroles fortes aussi que nous disons dans la profession des foi, ou bien à la fin de chaque de la consécration du pain et du vin, on dit, donc il viendra, donc nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous attendons ta venue dans la gloire. Je pense que l'Église, elle nous offre chaque jour donc, les moyens pour raviver chez tous les chrétiens donc, ces désirs de la venue du Seigneur. Et le temps de l'Avent, par exemple, c'est cette densification de ce désir de l'Église et qui doit nous imprégner, doit nous conduire et raviver dans le cœur de tous ces désirs.
Frère Andreas, est-ce que vous pouvez nous donner un rapide témoignage? Vous me disiez en préparant l'émission que vous êtes un converti, puis donc votre conversion et après la rencontre de la communauté vous a aidé à rentrer dans cette réalité. Est-ce que vous pouvez nous décrire peut-être ces deux étapes clés de votre vie, ou en tout cas en quoi ça vous a aidé à vous mettre dans cette disposition qu'on essaie de décrire aujourd'hui?
Alors il faut dire que je ne suis pas un converti en sens que je n'étais pas catholique. À partir d'être jeune, parce que j'étais baptisé et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai vécu un peu comme je crois beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire ça ne me disait rien d'une certaine manière. Je me suis dit, bon, c'est sympa, mais pas plus que ça. Et après, à 16 ans, j'ai eu un accident très grave et ça m'a conduit à me poser beaucoup de questions sur le sens de la vie. Parce que jusque-là, je vivais un peu comme beaucoup de jeunes, c'est-à-dire je faisais la fête et tout ça. Et là, je touchais d'une certaine manière à la mort. Et je me suis dit, est-ce que c'était vraiment ça, le sens de la vie, tout ce que tu vis jusqu'à maintenant? Et j'ai pu tout de suite répondre dans mon cœur, j'espère que non, j'espère qu'il y a quelque chose de plus. Et après, bon, ça serait trop large de tout raconter, mais j'ai rencontré le Christ. C'était par une expérience eucharistique où j'ai vraiment rencontré le Christ comme le vivant et celui qui m'aime tel que je suis. Et la chose qui est arrivée, j'avais 16 ans à cette époque-là, c'est que je commençais une vie de prière et je commençais à chercher authentiquement Dieu. Mais c'est vrai qu'ensuite, à 18 ans, j'ai rencontré la communauté. Et c'était vraiment cette rencontre qui a encore changé ma foi profondément. Parce que la chose qui s'est passée, c'est que j'ai vu des frères et des sœurs qui vivaient effectivement dans cette... attente ardente du retour du Seigneur, de la venue en gloire du Christ. Et jusque-là, pour moi, c'était comme un peu des formules. Et je me suis dit, bon, c'est sympa et tout, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? Et là, je me suis dit, mais c'est fou, il le croit vraiment, quoi. Il y a vraiment des gens sur cette terre qui continuent à croire cela. Et moi, ça m'a frappé au plus profond de moi. Et c'est vrai que ça a changé toute ma vie. Parce que depuis, bon, après, je suis bien sûr rentré en communauté. Mais,
comment vous le vivez aujourd'hui? Vous vous levez chaque matin en vous disant c'est peut-être aujourd'hui que le Christ va revenir?
Je crois quand même qu'il y a quelque chose de cela, oui, je l'espère au plus profond de moi. Et c'est-à-dire, cette attente, elle est effectivement réelle. Chaque matin, quand je me lève, j'essaye le mieux possible. Parce
Donc
que...
vous attendez à la fin des temps, tous les matins, c'est...
Oui, et oui, on peut le dire comme ça. Il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup plu, c'est des pères de l'Église qui ont dit « Le temps fuit, la mort arrive ». Et ce n'était pas du tout dans un pessimisme, mais c'était dans ce sens-là, très positif d'une certaine manière, pour dire « Déjà personnellement, ma mort arrive un jour, mais ça va être donc le passage ». Et moi, je crois qu'on peut transposer cette phrase aussi en plus large, dire « Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. J'espère qu'aujourd'hui tu arrives, que tu frappes à la porte, que moi je serai prête à t'ouvrir. » Et ça, je crois, il y a cette eschatologie, cette attente, se vit déjà quotidiennement. Ce n'est pas seulement quelque chose qui, on ne sait rien dessus et tout, mais ça doit déjà transformer nos vies, sinon ça, il n'y a pas de sens.
Et c'est le cas, ça transforme votre journée, vous diriez ? Enfin, c'est peut-être difficile d'avoir du recul, mais...
Si, moi je crois que ça me permet d'être plus... paisible, plus dans la patience. Et aussi, si par exemple, il y a des situations difficiles, mais ça donne une autre perspective à tout cela. Si on a des maladies ou des morts, des proches et tout ça, mais ça, cela nous donne l'espérance. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui transforme ensuite aussi et qui rayonne aussi autour de nous, qui le croyons. C'est-à-dire que les gens, ils commencent à se dire « Mais pourquoi tu es tellement heureux ?» Avec, pour moi, concrètement, par exemple, j'ai vécu cet accident. Et c'était physiquement, ça m'a quand même un peu cassé, tout ça. Et les gens, c'est vrai, ils étaient frappés. Après, ils m'ont dit, mais pourquoi tu es tellement heureux? Tu as vécu tout ça. Et... Alors, je crois que ça change vraiment la vie en profondeur.
Merci beaucoup, Père Nilsson et Frère Andreas, d'être venus nous parler de cette folie qui est vécue ici, cette attente. Je citerai juste, avant de donner la parole à Étienne Dallaire, une phrase du pape Jean-Paul II. Nous sommes dans un nouvel avant, dans l'attente d'un Noël définitif.
Merci à vous tous, merci Emmanuel. Simplement pour vous donner rendez-vous pour ce soir, alors nous nous retrouvons à partir de 17h pour un moment d'immersion dans la communauté avec un reportage signé Marie-Pierre Pavlak. Et puis ensuite à 17h30, nous participerons à l'office de Vêpres avant le grand rendez-vous de ce soir, la vigile pascale qui débutera à 21h. Nous étions en direct du monastère Sainte-Catherine de Blagnac avec la communauté des Béatitudes. Bonne journée à vous tous.